Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus et vous écoutez Histoire de savoir, l'émission qui explore une panoplie de sujets avec curiosité. Aujourd'hui, on est ravis d'être avec vous. Moi, c'est Elodie Humbeletz.
Et moi, Camille Pilini. Et ensemble, on va plonger dans un sujet qui nous concerne toutes et tous, le cœur des femmes.
Alors Camille, si je te dis infarctus, tu vois quoi toi ? Moi, je vois un homme, la cinquantaine, costume, cravate, qui s'écroule en se tenant la poitrine. L'image d'un film par excellence, quoi.
Ah mais pareil, et pourtant c'est complètement faux parce que les maladies cardiovasculaires, ce sont les femmes qu'elles tuent le plus, première cause de mortalité devant tout le reste, et comme nous l'a confié la cardiologue Muriel Springer, les femmes ne sont pas averties et même les soignants ne sont pas toujours conscients du risque.
Waouh, alors là ça pose question, mais comment est-ce qu'un problème aussi massif peut rester invisible ?
Eh bien justement, on a été poser la question à quelqu'un qui sait vraiment de quoi elle parle, Muriel Springer, cardiologue au CHU de Sarthe-Tilmont.
Parfait. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial. Pourquoi le cœur des femmes est-il encore si mal compris ? Et comment est-ce qu'on peut changer la donne ?
Allez, ne perdons pas une seconde, écoutons Muriel Springer.
32% des décès féminins sont dus à un problème cardiovasculaire. C'est la première cause de décès chez les femmes. 200 morts par jour en France. On a focalisé à juste titre sur le cancer du sein. Mais quand on regarde les statistiques, les femmes ont plus de risques de mourir d'un problème cardiovasculaire que d'un cancer du sein. Donc il faut les informer, les conscientiser.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'imagine encore que l'infarctus, c'est une maladie d'homme ?
Parce que les clichés ont la vie dure. On a tous en tête l'image du quinca qui s'écroule, alors que les femmes vivent plus longtemps et cumulent plus de facteurs de risque. Diabète, obésité, sédentarité. Et puis, il y a cette vieille idée que les hormones protègent les femmes, ce qui est vrai, mais que jusqu'à la ménopause.
Et la recherche n'a pas aidé non plus, je suppose, si ?
Pas vraiment. Pendant longtemps, les études cliniques mélangeaient hommes et femmes sans distinction. Comme il y avait surtout des hommes dans les échantillons, les conclusions étaient faites pour eux.
Ah mais du coup, c'est un peu comme si la médecine avait pris le cœur masculin comme modèle par défaut en fait ?
Exactement. Muriel Springer nous l'a dit, l'homme a longtemps été considéré comme la norme, comme en pédiatrie, quand on pensait que l'enfant était juste un adulte miniature, et la femme, un homme avec un utérus. Spoiler alerte, non, ça ne marche pas comme ça. Le corps des femmes fonctionne différemment, et le cœur aussi.
D'où la question logique, est-ce que fondamentalement, le cœur féminin est-il vraiment différent ?
Anatomiquement, pas fondamentalement, il est plus petit, les artères sont plus petites, ce qui peut compliquer évidemment en cas d'intervention chirurgicale. Biologiquement, le cœur, c'est un organe, mais il est influencé par les hormones. Donc forcément, quand à la puberté et pendant la vie génitale des femmes, il y a une imprégnation par les hormones, il y a éventuellement des contraceptifs estroprogestatifs. Et puis à la ménopause, il y a un sevrage en hormones et parfois aussi des traitements substitutifs qui sont donnés après la ménopause. Donc tout ça intervient sur le cœur et sont des facteurs à prendre en charge, plus éventuellement, comme je l'ai dit, les complications d'une grossesse ou des choses comme ça. Donc, en fait, c'est le même organe, mais qui évolue de façon différente en fonction de facteurs extérieurs.
Ok, donc, même organe, pas la même histoire.
Bon, Camille, je t'avoue que je suis un peu perdue là pour le coup. Est-ce que tu veux bien remettre les bases ? Déjà, c'est quoi un cœur en fait ?
Pas de souci. Donc, imagine une maison à quatre pièces avec des portes qui s'ouvrent et se ferment dans un ordre très précis. Nous avons la pièce numéro 1, l'oreillette gauche, c'est la porte d'entrée du sang qui revient des poumons chargés d'oxygène. Avec sa porte numéro 1, elle s'ouvre, qui laisse le sang passer dans la pièce numéro 2, le ventricule gauche, c'est la pièce la plus musclée. Elle envoie le sang dans toute la maison, c'est-à-dire tout le corps. Ensuite, le sang revient chargé en dioxyde de carbone, un un peu comme du sang pollué. Dans la pièce numéro 3, qui est l'oreillette droite, il y a une porte, la porte numéro 3. Elle s'ouvre, le sang descend dans la pièce numéro 4, le ventricule droit, et il y a une porte numéro 4 également. Elle s'ouvre, le sang repart vers les poumons pour se recharger en oxygène. Et entre tout ça, porte numéro 2 s'ouvre pour envoyer le sang qui part dans les tuyaux, les artères.
Waouh, eh ben, et tout ça 60 à 80 fois par minute au repos. Une maison qui ouvre et qui ferme ses portes en rythme sans jamais s'arrêter. Mais est-ce que quelque chose change entre les hommes et les femmes ?
Oui, chez les femmes, la maison est un peu plus petite et les tuyaux, les artères sont plus fins. Et surtout, les hormones modifient la manière dont les portes s'ouvrent et dont la maison fonctionne au fil de la vie.
Ok, donc si j'ai bien compris, le cœur féminin évolue différemment, c'est ça ?
Exactement. Et ça influence les symptômes, les risques et même la manière dont les maladies apparaissent.
Je m'en garde. C'était « Que mon cœur lâche » de Mylène Farmer. Vous êtes toujours sur Radio Campus et on écoute maintenant, on continue maintenant notre sujet sur le cœur des femmes avec une question essentielle. Est-ce que le cœur de la femme fonctionne différemment et est-ce que les symptômes aussi changent ?
Oui, et c'est même tout le problème, on voit bien avec Muriel Springer, cardiologue au CHU Sartillement.
Il y a... Bien sûr, la femme peut avoir les mêmes symptômes que l'homme, mais elle peut aussi avoir des symptômes un peu plus bâtards, comme une sorte de mauvaise indigestion qui passe pas bien, une augmentation de l'essoufflement, une fatigue anormale, et elle n'y prêtera peut-être pas attention. Et puis, il y a l'infarctus, classique de l'homme, où c'est une artère coronaire qui se bouche. Mais chez la femme, on peut avoir des infarctus avec une artère qui est rétrécie, mais qui n'est pas bouchée. On a aussi des modifications au niveau de la microcirculation, donc des tout petits vaisseaux. On peut avoir des dissections spontanée d'artère coronaire, c'est plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé, donc le Takotsubo, qui là est assez typique de la femme. Ça survient chez des femmes en général ménopausées et qui subissent un gros stress physique ou psychologique et qui ne sont pas vraiment un infarctus, mais qui peuvent provoquer des morts subites et doivent être pris en charge rapidement, parce que si la patiente est prise en charge rapidement, le pronostic est très bon, mais sinon il y a un risque de mort subite ou d'insuffisance cardiaque.
Toujours par rapport à l'infarctus, quels sont les symptômes d'infarctus chez la femme qui passent le plus souvent inaperçus ?
L'augmentation de la fatigue, l'essoufflement... la sensation d'arythmie, de malaise, d'intolérance à l'effort, des gènes qui ne sont pas vraiment la douleur typique, qui sont un peu bâtardes quoi, à l'effort. Mais les femmes aussi, surtout si elles sont plus âgées, sont parfois plus sédentaires, donc elles ne ressentent pas ce qu'on appelle l'angine de poitrine. L'angine de poitrine, c'est la douleur quand on fait un effort. Donc si ces femmes-là sont très sédentaires, vivent en maison de repos par exemple et ne bougent pas beaucoup, elles peuvent ne pas ressentir l'angine de poitrine ou bien ce qu'on appelle la claudication intermittente des membres inférieurs. Donc quand les artères des membres inférieurs se bouchent, les problèmes sont découverts alors à un stade très avancé avec d'autres pathologies liées à l'âge, ce qui complique la prise en charge et aggrave le pronostic, bien sûr.
C'est fou parce que ce sont des symptômes qu'on peut facilement attribuer à autre chose.
Exactement. Fatigue, je dors mal. Essoufflement, je suis stressée. Nausée, j'ai mal digéré.
Ok, et donc le résultat, comme elle l'a dit, c'est que les femmes consultent plus tard et que les médecins peuvent passer à côté parce que le tableau classique, c'est celui des hommes et pas des femmes.
Oui, et même chez les futurs médecins de l'ULB, ce n'est pas très clair.
Peut-être que chez les femmes, ça peut avoir une manifestation un peu différente, mais sinon, sensiblement, je pense que c'est le même cadre.
J'ai l'impression que ça arrive plus souvent aux hommes, et même dans les médias qu'on voit, dans les films ou autour de nous, quand on entend parler d'infarctus, j'ai l'impression que ça touche plutôt les hommes. Mais par contre, c'est vrai qu'en cours, on ne fait pas la différence, quoi.
Je dirais oui, forcément, mais en vrai, je pense que le côté infarctus ne doit pas forcément orienter le côté... Si la femme n'est pas enceinte, par exemple, ça ne va pas orienter le côté... tout ce qui est hormonal et tout, donc je pense pas que, avec un recul, je pense que ça n'influence pas le truc.
Ok, donc on a vu que les symptômes sont trompeurs, mais il y a un moment clé dans la vie d'une femme où tout bascule pour son cœur quand même, c'est la ménopause.
Exactement. Avant, on se pensait protégé par nos hormones, les œstrogènes, qui gardent nos artères souples. Mais à la ménopause, ce bouclier tombe et c'est là que le risque cardiovasculaire grimpe d'un coup.
Alors, à la ménopause, il y a donc un sevrage en hormones, en estrogènes et en progestatifs. Ça perturbe, ça modifie le métabolisme, notamment au niveau des graisses. Donc, on peut avoir un taux de cholestérol qui augmente, au niveau du métabolisme des glucides aussi, avec des prédiabètes, des diabètes. tout cela va intervenir. Plus les modifications, peut-être que la femme va prendre du poids, peut-être qu'elle va faire moins d'exercice physique parce qu'elle arrête de travailler. Donc tout ça intervient. Il y a des traitements éventuels, donc il faut donner la priorité aux traitements au gel transcutané qui influence moins le métabolisme. Et il ne faut pas le donner à tout le monde non plus. Donc ces traitements-là doivent être instaurés dans les 10 ans qui suivent la ménopause. Et pour une durée, c'est la dose la plus faible, efficace, qui doit être proposée. L'indication principale, c'est les bouffées de chaleur. Mais il ne faut pas continuer à prendre les médicaments jusqu'à 80 ou 90 ans. Il faut réduire progressivement la dose et arriver à un sevrage. Donc tout ça intervient à la ménopause.
Ok, donc la ménopause modifie le corps des femmes. Mais c'est tout ?
Ah non, c'est bien plus large.
Les femmes ont des facteurs de risque cardiovasculaire propres, c'est-à-dire la préménopause, la ménopause, les complications des grossesses. Et puis, le mode de vie des femmes a changé. Elles fument plus, elles prennent plus souvent la pilule contraceptive. Elles sont exposées au stress professionnel, parfois familial, parfois plus sédentaires. Une alimentation moins saine, elle cuisine moins, et puis aussi une plus grande consommation d'alcool chez la femme. Il faut qu'elle soit informée que les symptômes peuvent être atypiques et pour cette raison sont parfois attribués au surmenage à la dépression. On dit « bah oui, t'es fatiguée, t'as trop de travail », mais on va pas plus loin. Ce qui entraîne des diagnostics plus tardifs, avec plus de comorbidités. Et il y a certaines maladies rares qui touchent plus spécifiquement les femmes. Ah oui, j'ai oublié. Oui, on n'a pas parlé des femmes qui avaient eu un cancer du sein et qui ont des traitements. Donc un facteur qui est propre à la femme, c'est le cancer du sein. S'il y a un traitement par radiothérapie et que la tumeur se situe à gauche, il y a un risque accru de léser un peu les coronaires. Donc on prend des précautions maintenant en radiothérapie pour diminuer l'irradiation du sein. Les chimiothérapies, les immunothérapies peuvent aussi provoquer des problèmes cardiaques chez ces femmes. Donc il est important, quand il y a un risque cardiovasculaire lié au traitement d'un cancer, de faire un bilan cardiologique avant de commencer ou au tout début du traitement et de surveiller. Certaines chimiothérapies provoquent de l'hypertension aussi. Et c'est pour ça qu'on développe maintenant la cardio-oncologie. Donc c'est une spécialité de la cardiologie qui s'adresse pas seulement aux femmes, mais à toutes les personnes soignées pour un cancer avec un traitement à risque cardiovasculaire. Parce que, heureusement, le pronostic des cancers s'est nettement amélioré, les gens vivent plus âgés, mais il est important qu'ils gardent le cœur et les vaisseaux en bon état. Ce serait dommage de guérir un cancer et de se retrouver avec une insuffisance cardiaque ou un infarctus.
Ok, je comprends mieux maintenant. Donc c'est parce que les femmes cumulent justement des facteurs que les hommes n'ont pas. Grossesse compliquée, contraception hormonale, la ménopause, la charge mentale, le stress, sans parler du tabac et de l'alcool. Elles ont aussi moins de temps pour elles, donc moins d'activité physique. Et on n'oublie pas un facteur hyper important, le cancer du sein.
Oui, voilà. Et ce n'est pas juste biologique, c'est aussi social. Le stress, la charge mentale, les inégalités... Tout ça pèse sur le cœur.
Le stress, bien sûr, est mauvais pour tout le monde. La femme peut avoir le stress, elle peut être anxieuse déjà de nature, mais elle peut aussi avoir un stress professionnel, surtout s'il y a à côté la charge mentale. Effectivement, la femme doit penser non seulement à son travail, mais aussi au rendez-vous des enfants, au rendez-vous du mari, ou à faire les courses, etc. Donc tout ça... est la cause d'un stress qui est probablement moins important chez l'homme. Puis il y a malheureusement aussi le problème des femmes battues et de tous ces problèmes qui sont aussi à l'origine de stress et de maladies cardiovasculaires. Et comme je l'ai dit, les facteurs socio-économiques de femmes qui ont des enfants à charge, qui sont seules et qui ont des difficultés pour boucler leur budget, tout ça est aussi un facteur de stress important.
Left a dent in the mattress where you used to lie. Now I'm talking to the shadows and I don't know why. You're a thousand miles away in a room I'll never know, but I'm still holding on to things that I should let go. Heartbeats loud in an empty house, thinking about how we used to be. Are you out there somewhere?
C'était Heartbeat de Mind. On est toujours sur notre sujet sur le cœur des femmes et on en apprend des bonnes nouvelles. Par exemple, le stress peut jouer un gros rôle dans les maladies cardiovasculaires. Camille, donne-moi une vraie bonne nouvelle. J'espère au moins qu'elles sont diagnostiquées à temps.
Bah, pas du tout, Elodie. Elles sont même parfois diagnostiquées beaucoup trop tard.
Oui, il y a un retard de prise en charge. Alors, les médecins sont responsables, les paramédicaux aussi, mais la femme aussi, parce que la femme a tendance à faire passer les enfants, le mari, le copain, tout le monde avant elle. Elles ont aussi plus tendance à faire de l'automédication, à essayer de régler leurs problèmes sans en discuter avec le médecin traitant. Et parfois à attribuer des symptômes à des maladies avec une sorte de négation de la maladie. Et les femmes ont plus tendance à reporter un rendez-vous aussi parce que le fils doit faire ceci, on doit conduire les petits à l'école, donc on annule chez le médecin. Elles passent après. Il faut savoir sélectionner les patientes qui sont à risque cardiovasculaire et les traiter préventivement, ne pas attendre que l'accident survienne avant de commencer. On sait aussi que les études montrent que les femmes sont parfois moins vigilantes dans le suivi, elles abandonnent plus facilement leur traitement. Et puis, il y a aussi l'importance des facteurs socio-économiques. C'est malheureusement dans les populations qui ont fait moins d'études, qui ont moins de revenus, qu'on a le plus de pathologies. Et il y a des femmes ou des femmes qui sont seules avec des enfants. Il y a un problème socio-économique à prendre en charge aussi.
Si en plus leurs symptômes sont atypiques,
tout est réuni pour que le diagnostic arrive trop tard.
Mais alors, si tout joue contre elle, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour inverser la tendance ?
Déjà, je dirais informer. Ensuite, dépister et surtout adapter la médecine.
Il y a évidemment les malformations cardiaques. Là, c'est le pédiatre qui va les détecter s'il y a un souci. Une information au moment de à la fin de l'adolescence pour les facteurs de risque, expliquer peut-être qu'il faut se nourrir correctement, qu'il faut faire du sport, qu'il ne faut pas fumer, qu'il ne faut pas donner les conseils habituels de prévention. Si on a des grossesses compliquées par hypertension, diabète, etc., les femmes doivent continuer à être suivies après. Sinon, dans la cinquantaine et à la ménopause, refaire un bilan et traiter tout ce qu'il y a à traiter. Et puis, en fonction des autres pathologies, des contrôles plus rapprochés. Si la patiente présente une hypercholestérolémie importante, il faut la traiter. Si elle fume, il faut essayer de la convaincre, l'aider au sevrage. Si elle est hypertendue, il faut aussi qu'elle soit suivie. Donc, en fonction du risque cardiovasculaire de chacune, les contrôles seront différents. Et quand on arrive à la ménopause, il faudrait aussi une mise au point. Donc il y a les âges charnières chez la femme où elle devrait consulter et où on devrait l'informer mieux qu'elle ne l'est pour le moment.
Ok, donc là on entend non-stop les facteurs, les symptômes, quand consulter. Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'une femme a eu un infarctus ? Comment se passe la récupération ?
On constate, donc on recommande après un infarctus ou après un traitement cardiovasculaire de faire ce qu'on appelle la réadaptation, donc c'est la gymnastique. Et on constate qu'en fait, il y a plus d'hommes que de femmes qui y participent. Alors pourquoi ? Peut-être parce que les femmes ont les problèmes cardiovasculaires plus âgés, c'est possible. Et aussi parce qu'elles font passer d'autres choses avant, probablement. Ou aussi, chez des femmes plus âgées, ça va probablement changer avec les générations. Mais il y a encore des femmes qui n'ont pas de voiture, qui ne savent pas conduire, qui sont dépendantes d'un chauffeur pour aller à leur validation, donc ne la feront pas.
On fait vite un petit retour sur le campus de l'ULB pour avoir des idées progressistes des étudiants sur ce qu'il faudrait mettre en place pour mieux visibiliser les femmes.
Plutôt au moment où on voit chaque pathologie, de dire « Ok, sensiblement, ce qui pourrait se passer chez les femmes de tel gabarit ou de tel âge, ça pourrait être une manifestation un peu plus sensible ou un truc où on pense à une maladie qui n'est pas forcément celle-là. » Enfin, ce serait plus sympa pour elles.
C'est vrai que ça arrive souvent qu'on nous prenne un peu moins au sérieux avec nos symptômes ou qu'on remette tout sur le fait que oh, on aura bientôt nos règles ou des trucs comme ça ou c'est pas grave, ça arrive. C'est vraiment la société en général qui devrait changer un peu par rapport à ça et c'est assez compliqué du coup.
En général, la société, on est dans une société où on pense beaucoup plus aux hommes alors que leur fonctionnement biologique est totalement différent aux femmes et donc vraiment distinguer la femme et l'homme et prendre en compte cela.
Jusqu'à maintenant, quand on nous parle d'études et de cas cliniques, on parle d'un patient. Et c'est là qu'il faudrait savoir donner un vrai, je vais pas dire un vrai background, mais en fait, savoir donner des vraies identités aux exemples qu'on donne, que ce soit femme comme homme.
Bon, on a appris énormément de choses avec le docteur Muriel Springer, mais est-ce qu'on a vraiment bien tout imprimé ? Camille, je sens que tu vas me tester.
Exactement, Elodie, c'est l'heure du cardio quiz. On va voir si tu as été attentive. Et vous aussi sur Radio Campus, préparez-vous. On commence par deux questions basées sur ce qu'on vient d'entendre. Si vous vous trompez là, c'est que vous dormiez depuis le début. On parle énormément et à juste titre du cancer du sein, mais pour les femmes, quelle est la cause de mortalité numéro 1 en Belgique et en France ? Réponse A, le cancer du sein. Réponse B, les maladies cardiovasculaires. Réponse C, les accidents domestiques. Allez, Elodie, je t'écoute. Et vous, chez vous, vous avez choisi quoi ?
Bon, alors, j'avoue qu'avant l'émission, j'aurais dit le cancer du sein. Mais là, j'ai bien écouté. Je sais, c'est la réponse B, les maladies cardiovasculaires.
C'est juste, un décès sur trois chez les femmes est lié au cœur ou au vaisseau, c'est massif et pourtant l'information circule encore trop peu. Nous avons une deuxième question sur l'anatomie. Le docteur Springer nous l'a dit, le cœur d'une femme n'est pas tout à fait le même que celui d'un homme. Quelle est la différence majeure qui complique la tâche des chirurgiens ?
Je m'en rappelle. C'est une question de taille. Le cœur est plus petit, mais surtout les artères sont beaucoup plus fines. C'est ça, hein, Camille ?
Ouais, c'est ça. C'est de la micromécanique. Imaginez une plomberie avec des tuyaux beaucoup plus étroits. Forcément, le moindre bouchon arrive plus vite et c'est plus difficile à réparer. Alors comme ça, ça a l'air facile pour toi. On part sur tes connaissances personnelles, des choses non abordées dans l'émission, mais ce que j'ai retenu de l'interview. Là, on ne rigole plus, Elodie. Auditeur de Radio Campus, si vous trouvez les réponses, vous pouvez postuler en cardiologie. On y va. Question numéro 3. Il y a une maladie chronique qui est beaucoup plus dangereuse pour le cœur d'une femme que pour celui d'un homme. À cause d'elle, le risque cardiaque est multiplié par 4 chez la femme contre seulement 2 chez l'homme. C'est quoi ? Réponse A. L'asthme. Réponse B, le diabète. Réponse C, l'arthrose. Alors, vous avez une idée ? C'est une maladie liée au sucre.
Dans ce cas, si c'est lié au sucre, je dirais peut-être le diabète.
Bien joué. Le diabète grignote les petites artères des femmes beaucoup plus agressivement que celles des hommes. C'est un facteur de risque majeur et pourtant on n'en parle pas assez dans la prévention spécifique aux femmes. Question numéro 4, alors là on va parler d'un sujet qui touche énormément de jeunes femmes, parfois dès 16 ou 17 ans. À ton avis, quel est le mélange de deux facteurs de risque qui est le plus redoutable pour les artères d'une jeune femme ?
Le stress et manger mal peut-être ?
C'est mauvais mais il y a pire. Je vous laisse 5 secondes chez vous, on parle d'une habitude très courante et d'un médicament.
Une habitude et un médicament. Ah bah oui, est-ce que c'est le tabac et la pilule contraceptive ?
Exactement, et le mot explosif n'est pas exagéré. Le docteur Springer est très clair là-dessus. Si vous combinez une contraception estroprogestative et la cigarette, vous ne faites pas juste additionner les risques, vous les multipliez. On voit des infarctus ou des AVC chez des femmes de moins de 30 ans à cause de ce duo.
Oh waouh, mais pourquoi est-ce que ça réagit si mal ensemble ?
Pour faire simple, certaines pilules peuvent légèrement augmenter le risque de formation de caillots. Et le tabac abîme les vaisseaux sanguins. Ensemble, ils augmentent le risque, surtout si on fume régulièrement. C'est pour ça qu'il est important d'en parler à un médecin. Il y a d'autres moyens de contraception plus adaptés. Question numéro 5. On finit avec une question sur le comportement. En moyenne, quand une femme ressent le premier signe d'un infarctus, combien de temps de plus qu'un homme met-elle avant d'appeler les secours ? Réponse A, 15 minutes. Réponse B, 40 minutes. Réponse C, elle appelle au plus vite.
Bon ben, j'ai peur de la réponse, mais je vais être un peu positive. Je dirais peut-être 15 minutes.
Hélas non, c'est faux. Tu étais pourtant bien partie, Elodie. Ça peut aller de 30 minutes à 1 heure de retard par rapport aux hommes. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu. Elles pensent que c'est le stress, ou elles veulent finir de ranger la cuisine, ou elles ne veulent pas déranger. Sauf qu'en cardiologie, chaque minute, c'est du muscle cardiaque qui meurt. On appelle ça le syndrome de Yentl, ou de la négligence de soi.
Waouh, c'est glaçant. Une heure de perdu juste par habitude sociale de s'occuper des autres.
Exactement. Voilà, le quiz est terminé. Si vous avez eu 5 sur 5, bravo, vous êtes des ambassadeurs du cœur des femmes. Mais au-delà du score, ce qu'il faut retenir, c'est que l'urgence n'attend pas que la cuisine soit rangée.
C'est un message vital, et pour s'assurer que chacune d'entre nous sache exactement quoi faire, on ne pouvait pas clore cette émission sans laisser le dernier mot à notre experte Muriel Springer.
Les maladies cardiovasculaires sont présentes chez les femmes aussi, surtout après la ménopause, mais... Tout ça se prépare, donc il faut mener une vie saine, je vais dire, respecter les conseils de prévention cardiovasculaire. Il faut que la femme consulte son médecin traitant aux différentes périodes charnières, comme je dis, donc lorsque... Elle, à la fin de l'adolescence, en cas de grossesse, de contraception, à la ménopause. En cas de symptômes, en parler au médecin traitant, faire les dépistages, et pas seulement le dépistage du cancer, mais les autres dépistages aussi. Et je terminerai en disant qu'il faut arrêter de croire que la femme est protégée toute sa vie par les hormones. Elle peut faire des problèmes cardiovasculaires, surtout après la ménopause, mais avant, c'est possible aussi. Donc il faut être vigilant et prendre sa santé au sérieux.
Le cœur des femmes, ce n'est pas un détail, c'est un enjeu majeur de santé publique.
Et on n'est pas les seuls à tirer la sonnette d'alarme. En France, par exemple, l'association Agir pour le cœur des femmes, cofondée par la cardiologue Claire Mounier-Veillé, fait tourner un bus de prévention pour informer les femmes et dépister les risques cardiovasculaires.
Changer les représentations, c'est aussi changer les diagnostics et au final, sauver des vies.
Alors, on le répète, écouter son corps, se faire dépister et ne pas minimiser ses symptômes. C'est essentiel, le cœur des femmes mérite toute notre attention.
Un immense merci à Muriel Springer pour son temps et son expertise, aux étudiants en médecine du campus Erasme, à Adeline Weckmans et Romeno Faita pour l'encadrement et les précieux conseils, et à Thomas Kisseline pour l'enregistrement.
Mais surtout, merci à vous pour votre écoute. Prenez soin de votre cœur et de celui de vos proches. On vous laisse avec un morceau qui peut littéralement sauver des vies. 100 BPM par minute, parfait pour un massage cardiaque.